Le chemin du milieu, Radio Grand Ciel Chartres 106.8, bonjour. Caroline Lorenz va vous raconter l'histoire de l'unification de l'Empire chinois et de Qin Shi Huangdi, son premier empereur. La période des royaumes combattants, qui succède à celle des printemps et des automnes, s'ouvre sur les guerres les plus sanguinaires et les plus cruelles que l'histoire de la Chine ait connues. La cruauté ne s'adressait plus aux barbares, êtres sauvages et incivilisables, qui, par les trophées rapportés, satisfaisaient le sentiment de puissance des princes. Car le prince est un guerrier qui, jeune adolescent, était initié à la forêt, comme le fut l'empereur mythique Xuan, et au pas de danse de Yu le Grand, qui rend inoffensifs les démons des marais. Il va à la guerre contre les barbares comme il va à la chasse aux bêtes sauvages, qu'il consomme lors de grands festins, rythmant le sacrifice sur le ventre du divin crocodile qu'il a capturé, l'accompagnant d'un rire tonitruant, invoquant la foudre, force créatrice de la nature. Maître des forges, il devient maître du monde. Ces chasses à l'homme sont les exutoires des règles de retenue pratiquées entre seigneurs qui, par leurs alliances matrimoniales, appartenaient à la même famille. Les codes de bataille entre principautés étaient gravés sur des chaudrons dont les métaux qui composaient leur alliage étaient extraits des mêmes montagnes dans lesquelles vivaient les barbares et sur lesquelles était inscrit que « anéantir une seigneurie du même nom n'est pas conforme au rite ». Les joutes rivales entre Chinois se terminaient aussi par un banquet au cours duquel se concluaient des alliances, des échanges d'otages, des mariages. Cette soif de domination qui ne pouvait s'exprimer qu'avec les barbares devint courante par la suite lorsque le prince de Song outrepassa la règle et que, rassemblant lors d'un banquet d'autres états chinois et prétextant réunir sous son autorité des barbares, il offrit en sacrifice et à la stupéfaction de tous un seigneur chinois. Mais si l'on sacrifie un chinois, qui parmi les dieux et les hommes voudra en manger ? La magie a basculé dans l'horreur, les rivalités courtoises sont reniées, les assauts ne se terminent plus par des alliances, mais par la soumission aux victorieux. C'est dans ce nouvel état d'esprit que les sept royaumes restants de la dynastie des Chou se livrèrent une guerre sans pitié du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'unification de l'Empire par le roi de Tsin en 221 avant Jésus-Christ. Avant tout, pour éradiquer l'ancien régime, il fallait détruire les prérogatives de la noblesse en place. Dans les immenses palais des rois, de 5000 pieds, fenêtres au sud et au couchant, là j'habite, là je demeure, là je fais la fête, là je tiens conseil. Immense palais à la somptueuse architecture, dont les toits affilés en ailes d'hirondelles, portant dragons protecteurs des démons, s'appuyant sur d'immenses colonnes, abritant d'immenses salles au décor féerique, faits d'ivoire, de jade, de nacre, de pierres semi-précieuses, où pullulaient ceux qui avaient déplacé l'aristocratie. Ils étaient scribes, ayant mémorisé par la copie les textes classiques et les annales de chaque état. Ils étaient ingénieurs agronomes, ingénieurs hydrographes, physiciens, alchimistes, astrologues, devins, médecins, penseurs, commerçants. Tous apportaient un savoir et convoitaient en rétribution de leur talent un poste important dans le gouvernement qui les enrichirait. Parmi eux, Shang Yang, chancelier de l'état de Tsin, développa une théorie dans le canon du prince Shang, selon une nouvelle philosophie, le légisme, troisième de l'époque après le taoïsme et le confucianisme, partant du fait que l'homme et la société sont ce qu'ils sont, seules toutes les lois émanent du prince, au-dessus de toute règle, inspirant la terreur utile à l'application de ces lois, assurait la paix dans un pays. Le légisme fut appliqué dans le pays de Tsin par des réformes administratives, économiques et pénales. Le pays fut divisé en préfectures, les fonctionnaires engagés étaient choisis, rétribués et révocables sous le contrôle du pouvoir central. La noblesse destituée et rassemblée dans les villes ne guerroyait plus. Leurs chars étaient devenus trop lourds. Ils avaient été remplacés par une armée de métiers rétribués au nombre de têtes coupées, preuve de leur vaillance. Une armée désormais composée d'escadrons de fantassins, plus agiles pour poursuivre les barbares dans les montagnes, et d'une cavalerie d'archers à l'identique de celle des Mongols des steppes, jusque dans l'uniforme, tunique et pantalon et bottes. Le cavalier remplace le chevalier. Les stratégies de guerre changèrent aussi. Les villes étaient assiégées et les citadins bombardés de pierres lancées par d'énormes catapultes. Enfermés, mourant de faim, ils se dévoraient entre eux. La guerre devenue une industrie sonne le glas de l'époque féodale. Les paysans devinrent propriétaires des terres sauvages qui représentaient leurs réserves de chasse et de bois et étaient redevables d'un impôt proportionnel à la superficie des champs cultivés. Elles furent défrichées, aménagées de canaux et de drainages et abondées d'engrais à des fins de culture intensive dont les récoltes rempliraient les greniers pour nourrir l'armée. Les négociants qui avaient bien compris que les affaires seraient florissantes s'occupaient du transport des céréales, des matières premières, créèrent des ateliers desquels sortaient en série les armes ou les outils agricoles, les tissus dont les soies s'exportèrent jusqu'en Inde du Nord. Ils étaient devenus propriétaires des carrières, des champs cultivés, des ateliers artisanaux où besognaient les paysans endettés rendus à l'esclavage, tous les biens finis étant estampés de leurs sceaux. La monnaie devint un moyen d'échange indispensable, remplaçant l'or, l'argent, le jade, les pierres, les soieries, elle circulait désormais sous forme miniature d'outils agricoles, d'outils de chasse, d'épées ou de pièces rondes percées d'un cercle central. Tsin devait aussi sa puissance à sa situation géographique. Le pays de Tsin, écrit Sima Tsien, est un état que sa configuration géographique prédestinait à la victoire. Rendu difficile par la ceinture que forment autour de lui le fleuve jaune et les montagnes, il est suspendu à 1000 lis au-dessus de l'Empire. Avec 20 000 hommes, il peut tenir tête à 1 million d'hommes armés de la lance. La disposition de son territoire est si avantageuse que lorsqu'il déverse ses soldats sur les seigneurs, il est comme un homme qui lancerait de l'eau d'une cruche d'en haut d'une maison élevée. Dans cette nouvelle organisation du pouvoir naît celui qui unifiera la Chine. Yingcheng devint roi de Tsin en 246 avant Jésus-Christ, après une régence de 13 ans exercée par Lu Puwei, ministre légiste de son père. En 12 ans, ses armées avaient soumis les États restants. La Chine était unifiée sous son pouvoir et il se déclara empereur sous le nom de Tsin Shi Huangdi. Yingchen s'intéressa très jeune aux affaires du gouvernement. Outre les classiques qu'il était en devoir d'apprendre, il lisait les traités, les codes de loi, les registres administratifs et les livres scientifiques. S'identifiant au Tao, il insère sa dynastie dans le mouvement des cinq éléments, réalisation du Tao selon les points cardinaux, accordés aux notes de musique, aux couleurs, aux saisons, aux nombres, et structurant le yin et le yang. Sous le pouvoir de l'eau, dont la couleur correspond au noir, afin de marquer sa victoire sur la dynastie des Chou qui gouvernait sous l'élément feu. Il change le calendrier et décide que le numéro 6 serait le dénominateur commun de toutes ses décisions. Il s'entoure de 72 sages, la hauteur des coiffes ne dépasse pas 6 pouces, l'attelage est composé de 6 chevaux et divise son empire en 36 commanderies, à la tête desquelles il place un administrateur civil, un gouverneur militaire et un intendant qui doit lui rapporter faits et gestes des deux autres. La délation, l'espionnage sont l'apanage du règne de Tsin Shi Huangdi. Puis il fond toutes les armes de l'Empire en signe de paix, qu'il fait transformer en statue géante pour commémorer ses conquêtes et en orne ses palais. Il fait venir dans sa capitale les familles nobles, devenues oisives, les déracinant de leur lieu d'origine. Parmi ces nobles partisans du confucianisme, on en vint à lui dire « Votre sujet vint à entendre dire que les règnes des Xia et des Chou ont duré plus de 1000 ans. C'est que les souverains de ces dynasties avaient donné des fiefs à leurs fils, à leurs frères cadets, afin de s'en faire des appuis. Maintenant, votre majesté possède tout l'intérieur des mers, tandis que ses fils et ses frères cadets sont de simples particuliers. Que dans une affaire, on ne prenne pas modèle sur l'Antiquité et que cependant on puisse durer, c'est ce qui, à ma connaissance, n'a jamais existé. » Constatant une opposition intolérable à sa volonté, il fit brûler tous les livres classiques, ne gardant que les livres techniques, de médecine et de divination. Destituant de leur nom de grade les lettrés, il en fit incinérer près de 400 récalcitrants, menaçant de mort ainsi que leurs familles ceux qui cacheraient les livres défendus.
Thank you.
Et lorsque les neiges fondirent, il partit faire un tour d'inspection de son empire, accompagné de ses ministres, femmes, eunuques, chariots de vivres et de vaisselle. Le cortège impérial, dont les chars laqués de noir luisaient sous le soleil comme des scarabées, avançait sur les routes qui avaient été tracées partant de la capitale, toutes de largeurs uniformes, surélevées en cas d'inondation, plantées d'arbres et ponctuées de relais de poste. Dans le char impérial, les eunuques s'étaient substitués à l'empereur. Les inscriptions qu'il laissa graver sur les montagnes des États visités relataient ses réalisations et proclamaient son règlement universel d'une écriture unifiée afin que tous puissent les lire. La vertu lumineuse de l'empereur ordonne et anime tout l'univers entier. Il mourut lors d'une de ses expéditions, mais nul ne devait le savoir. L'héritage de l'empire étant en jeu, on le ramena à la capitale sur un lit de poissons séchés, afin que, traversant les villes et les campagnes, ceux qui ovationnaient son passage ne purent sentir l'odeur de son corps en décomposition. Tsin était l'état le plus exposé aux invasions barbares, fort intéressé par les grandes plaines de céréales. L'empereur décida de relier les murailles existantes des anciens états en une seule ligne de défense. La grande muraille de Chine a englouti plusieurs milliers de vagabonds, de criminels et de soldats. Et pour s'assurer que le ciel lui octroyait le génie fondateur d'une dynastie qui durerait 10 000 générations et qu'il en recevrait l'investiture, comme les empereurs mythiques, il décida de faire le pèlerinage aux montagnes pour sacrifier, en présentant son règne comme une ère nouvelle et l'annoncer à l'univers. Muni de sa tablette de jade, symbole de la dynastie régnante, il gravit seul les dernières marches du sommet et présenta sa requête au ciel. Une tempête se déchaîna, épaissie de brume, le ciel se zébra d'éclairs, la pluie s'abattit sur lui en hallebarde, la nuit ne s'éclaira pas, la nuée, indiquant la couleur dynastique, ne s'éleva pas vers le ciel. Quelque temps après, une météorite tomba du ciel sur laquelle on pouvait lire « À la mort de Huang Ti, l'Empire sera divisé ». Alors que Tsin voulait exterminer un des états féodaux, nous dit Suma Tsien, aussitôt il reconstruisait son palais sur la pente nord de Xiangyang, et en regardant le sud par-delà la Wei, des maisons, des pavillons se succédaient, tous emplis de ravissantes femmes, de cloches et de tambours, fruits de ses butins. Il édifia des palais jusqu'à en avoir un par jour, 360, et leur donna des noms d'étoiles. C'était le reflet du ciel sur la terre, tous reliés par des corridors et des souterrains, car si l'endroit où habite le maître des hommes est connu de ses sujets, cela trouble les génies. C'est pourquoi il agissait sans être vu et sans faire entendre le son de sa voix. Lui qui hurlait ses décrets d'une voix de chacal et qui flairait de ses moustaches de tigre toutes les conspirations. Après lecture des rapports de ses espions qui l'informaient du moindre agissement de ses sujets, il passait ses nuits à consulter les cartes de son empire et fit construire un pavillon sur les murs duquel des peintres avaient illustré l'empire. Homme tout-puissant, assailli par sa fragilité, il pensa que l'immortalité serait son seul salut. Il s'entoura de magiciens et, sur les conseils de Maître Loup, il se consacrait aux pratiques de l'immortalité, ingurgitant des pilules de cinabre, méditant, jeûnant, voulant connaître toutes les vertus des plantes, étudiant les livres de Lao Tzu et de Chuang Tzu. Il consultait aussi les devins. Il se mit à pratiquer l'art de la chambre à coucher, qui insistait sur le fait que le Ting devait remonter au cerveau au moment de l'accouplement. Après 3600 femmes, il se sentit épuisé, essoufflé et fut pris de vertige. L'aérogamie du yin et du yang se fait en soi. L'empereur, entrait en méditation, halluciné par les drogues que Maître Loup lui administrait, remuant ses pensées entre les allées venues de Roune et Pau. Ayant su que l'élixir de l'immortalité était fabriqué sur l'île de Benglai, il envoya en offrande à l'empereur de Jade 1 000 000 de jeunes filles et de jeunes gens afin qu'il lui concède le breuvage. Le Shen Yu, poisson-homme, les empêcha d'accoster. Mais dans son dernier délire, Xin She Huang Ti eut raison de lui et le tua. Sur le mont Ling Tong, il prépara sa dernière demeure pour assurer sa position centrale dans l'histoire et le cosmos, ses pouvoirs dans l'éternité. Ainsi, il n'avait pas seulement unifié les États, il aurait aussi unifié les esprits de l'univers. Ayant réfuté les traditions ancestrales en fondant un pouvoir unique, sa superstition respectait les rites funéraires anciens. Les tombes étaient une analogie de la vie dont l'organisation permettait la vie après la mort. Sa tombe était son palais, sa cour, son armée, et l'univers entier centré sur lui. 30 000 familles furent installées au mont Li pour veiller sur le tombeau. 700 000 ouvriers, esclaves et repris de justice furent emmurés afin qu'ils ne délivrent le secret du tombeau, lui firent le bel habitacle où il repose encore. À l'extérieur, une armée de soldats, aux armures de pierre blanche, antidote des démons, assure la tranquillité de l'empereur. À l'intérieur, à la lumière éternelle des torchères de graisse du Shen Yu, le poisson-homme, s'affairaient les administrateurs, les militaires, les esclaves, les acrobates, les musiciens. Le fleuve bleu et le fleuve jaune s'écoulent inlassablement, se mélangeant au lac vert de Mercure, où se reflète la voûte céleste. Sur leurs rives, des hérons de bronze regardent flotter des cygnes. Les grues s'envolent en signe d'éternité.
Thank you.